I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Yeah. Podcasts. Salut, c'est Juliette Katz. Bienvenue dans le podcast, l'émission qui refuse de se taire. Chaque semaine, j'invite une personne pour discuter ensemble d'un sujet de société. Des conversations authentiques, sans filtre ni censure, sur des sujets parfois brûlants. Préparez-vous à être chamboulé, à rire et à peut-être penser différemment. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous embarquer dans ce voyage sonore où la liberté d'expression est la clé. Le podcast, c'est votre rendez-vous sans convention ni tabou. Comme vous pouvez l'entendre, nous commençons cet épisode dans ma voiture, puisque pourquoi pas. Voilà, j'avais envie de vous parler ici. C'est un endroit où je me sens bien. Vu que ça fait pas longtemps que j'ai une voiture et que ça fait pas longtemps que je conduis, j'aime m'y rendre. Non mais on va avoir l'impression que parfois je passe mes après-midi dans ma voiture. Pas du tout, je vais chercher mon affaire. Le sujet d'aujourd'hui, je vous en ai parlé alors plein de fois. Je vous en ai parlé un peu en bribe ici, un tout petit peu. J'en ai parlé il y a pas si longtemps que ça sur YouTube, une vidéo qui s'appelle 35 ans que ça dure. Et j'en parle sur Instagram. Voilà, c'est un sujet en tout cas qui est au cœur de ma vie. Je peux pas dire ça autrement depuis longtemps. Et en fait, je ressens le besoin de vous en parler aujourd'hui parce que je suis malheureuse en fait. Hein. Je vais pas vous dire les choses autrement. C'est un épisode qui va, à mon sens, pas être très joyeux puisque bah voilà, je me sens pas très heureuse avec ce sujet-là. Donc ce sujet-là, parce que j'ai arrêté de faire du suspense, c'est mon rapport au corps. Je pense qu'on a tous un rapport au corps qui se dit complexe et qui va même au-delà du poids au final, qui est un rapport à soi et l'enveloppe finale, donc être obèse, maigre, mince, tout ça n'est que secondaire. Je parle vraiment de comment on se ressent à l'intérieur. Donc désolée pour celles et ceux qui écoutent cet épisode où je peux me répéter à certains moments. En vrai, je vois pas comment je peux dire les choses autrement. J'ai l'impression que je me bats au quotidien depuis presque 35 ans et que c'est, j'arrive pas à faire la paix en fait. J'arrive pas à faire la paix avec mon corps. Je n'y arrive pas. J'essaye depuis je ne sais pas combien d'années. En fait, quand j'étais petite, parce qu'on peut peut-être partir de ça. Quand j'étais petite, je me suis toujours trouvée plus grosse que les autres. J'étais pas grosse, mais je me trouvais plus grosse que les autres. Et je pense que je me trouvais plus grosse que les autres parce que les gens me le faisaient remarquer. Que ce soit... en fait, c'était surtout à l'école. Hein, les professeurs et les élèves me faisaient remarquer que j'étais pas comme les autres, en fait, physiquement. Des profs ont pu me dire que j'étais grosse. D'autres m'ont insultée, simplement, à l'école. Je voyais sur les photos que j'avais... un bourrelet, alors que d'autres n'en avaient pas, que j'avais des seins qui poussaient plus tôt, mais je sais pas si c'était du sein ou des gras, ou du gras. En même temps, les seins, c'est aussi du gras. Bref, vous m'avez comprise. Mais je voyais que j'étais plus potelée. Et ça a commencé des stages, ouais, dès la primaire, en fait, où j'admirais les nanas minces. Je m'en souviens que toutes mes copines minces, je les admirais. Et c'était devenu, c'était le commencement de mon obsession, en fait, parce que vraiment, en fait, je peux pas appeler ça autrement. En fait, ouais, c'est devenu obsessionnel à partir du moment où on me l'a fait remarquer. Je pense que si on m'avait jamais pointé du doigt mon corps, bah, je pense que peut-être que j'aurais jamais été grosse. Tiens. Je crois que c'est les autres qui nous font complexer, c'est les autres qui créent le manque de confiance et les complexes et les choses qu'on aime pas en nous. Donc bref, voilà, à l'école primaire, ça a commencé comme ça et je l'ai vite vu parce que, en fait, voilà, comme je vous disais, les profs et les copains de l'école me disaient que j'étais trop, déjà. Et je voyais déjà, à cet âge-là, que j'admirais les filles minces. enfin une admiration qui est peut-être pas nommée comme ça à cet âge-là, hein. On parle vraiment de la primaire, quoi. Donc il y en a qui disent du primaire d'ailleurs. Moi j'ai toujours dit de la primaire. Je ne sais pas si on dit de la ou du. Bon. En tout cas, voilà, j'admirais les filles plus minces parce que j'avais l'impression que c'était gage de réussite déjà à cet âge-là. Encore une fois, parce que je voyais que les nanas qui étaient minces plaisaient plus, étaient plus populaires et ou avaient des meilleures notes. Mais en fait, j'ai fait un amalgame, évidemment, à cet âge-là. Et quand je suis rentrée au collège, bah, ça a été, je pense, la pire période en termes d'insultes, quoi. Au collège, ça a été l'enfer. Quand cet épisode sera sorti, j'aurais fait du coup un extrait vidéo de cet épisode sur Instagram que j'aurais partagé et j'essaierai d'y mettre des photos de moi quand j'étais enfant et adolescente. Et vous verrez bien que j'étais pas du tout quelqu'un de gros. J'étais plus que mes copines, mais même le mot rond n'était pas adapté, quoi. Donc au collège, en fait, très vite, on a continué à me dire « Hey, Juliette Moby Dick, la grosse vache », à m'insulter. Et donc le manque de confiance était de plus en plus présent. Et j'avais envie de plaire de plus en plus aux mecs populaires, quoi. Mais bon, bref. Et puis surtout, je voyais à cette époque-là que j'avais des potes, ce gros. Enfin, des meufs même plus grosses que moi. On venait pas les insulter. Donc je me demandais comment ça se fait que moi, on le faisait peut-être parce que les gens voyaient que j'étais la cible facile. Alors que mes potes, genre, il était hors de question qu'on vienne les attaquer là-dessus, quoi. Je vois ma meilleure pote, elle a toujours été ronde. On l'a jamais fait chier. Pourtant, j'ai fait mon collège avec elle. Enfin, pas tout mon collège, mais j'ai fait une partie de mon collège, de ma scolarité. Et j'ai aucun souvenir de ça, quoi. Et puis, en fait, je pense que j'ai commencé à faire des régimes, en vrai, vers 12 ans, quoi. Et un jour, alors je sais plus comment ça s'est passé exactement, mais je suis allée voir un diététicien parce qu'on avait parlé d'un centre pour maigrir. Et j'y suis allée avec mes parents. Et donc, quand ce mec nous a parlé de ce centre, je crois que c'était le co-créateur, enfin, je sais pas quoi, on s'est dit, bah, let's go. Parce que moi, j'étais pas bien. Et puis, mes parents voyaient que j'étais pas bien non plus. Donc, on s'est dit, bah, allez, allons-y. Et donc, je suis partie dans ce centre pour maigrir. J'avais, j'ai pas envie de dire de conneries, mais pour moi, j'avais, je sais pas, j'avais 14 ans, quoi. 13 ans, 15 ans, je sais plus, mais j'étais trop jeune pour faire ce genre de choses. Et donc, j'arrive dans ce centre pour maigrir. Et là, il y a 88 filles, je me souviens très bien, il y a 88 filles pour 12 mecs. Et que des gros. Que des adolescents de cet âge-là, quoi. Jusqu'à je sais plus quel âge, mais je dirais collège, lycée maximum. Ouais. Quand je suis rentrée dans ce centre, je faisais 1m68 pour 88 kilos. Pour 14 ans, ouais. Je pense que j'avais 14 piges. Bon, bref. Ce qui est déjà beaucoup pour mon âge, pour cet âge-là, c'est pas mal, quoi. J'ai 20 kilos au-dessus de ma taille. Et donc, en fait, ce qui est très particulier, c'est qu'on est que entre gros. Ou que entre anciens gros, parce qu'il y en a qui sont là aussi, qui partent parce qu'ils ont perdu leur poids. Et donc, c'est particulier parce que on est entouré de gens qui, on se ressemble un peu, et donc c'est l'école, quoi, c'est comme une pension, sauf qu'on a des cours de diététique, on fait, genre, je sais pas, 6-8 heures de sport par semaine, et puis on mange bien. Et donc j'ai perdu 80 kilos. Non. J'ai perdu 20 kilos en 8 mois. Et donc je suis sortie de ce centre, je faisais 1m69-70 pour 68 kilos, un truc comme ça. Et j'ai les photos avant-après en soutif, culotte. Et donc j'étais hyper contente. Mais déjà dans ce centre, en fait, c'était aussi marrant parce que je vous parle de ça, même si je crois que j'en ai déjà parlé, mais parce que c'est autour du corps, quoi. Je suis sortie avec deux garçons là-bas, et en fait, les meufs, je pense qu'il y avait une forme de jalousie parce qu'elles m'ont toutes insultée de salope en partant de ce centre, parce que j'avais pécho un mec qui visiblement était en couple, pécho, je l'avais smaqué. Et donc, on m'avait fait des doigts d'honneur en partant. Enfin, c'était assez difficile. Donc déjà, il y avait un truc où je sais pas, on m'insultait, quoi. En fait, on m'insultait. Il y avait l'insulte facile avec moi. Et ce qui a été terrible, c'est que avant de rentrer dans ce centre, j'étais dans un collège où, en effet, c'était l'enfer. J'ai fait deux collèges. Et c'était même presque trois. Et les gens m'insultaient tout le temps. Les garçons m'insultaient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand je suis revenue dans le collège après, en ayant perdu 20 kilos, tous les mecs qui m'insultaient voulaient me pécho. Et ça a été très violent pour moi parce que je me suis dit, ok, en fait, le physique a une place extrêmement importante. On passe d'une meuf qu'on vient insulter à une meuf qu'on a envie de pécho, avec 20 kilos de moins. D'accord. Ok, on en est là. Et je crois qu'il y a eu une forme de dégoût. il y a une forme de « Ah mais putain, mais c'est terrible !» C'est terrible de traiter la femme comme ça, comme déjà un morceau de viande quelque part dans l'inconscient de l'homme, quoi. Toute la période collège a été dure parce que j'ai vécu comme je vous dis, soit l'insulte facile, soit la meuf qu'on a envie de pécho et qui est presque un peu allumeuse, quoi. Donc voilà, le rapport au corps était placé, quoi. Physiquement, on me plaçait dans un certain endroit. Dans ce collège, j'ai un prof qui m'a traité de bovin une fois. Des mecs et des meufs de ma classe qui me traitaient de grosse. Beaucoup de grosses vaches. Beaucoup le grosse vache revenait. Et puis j'oublie aussi, je suis partie en Inde vivre avec ma mère pendant quelques temps. Et j'étais dans une école où il y avait des Indiens et des Occidentaux. Et tous les Occidentaux m'insultaient de façon, ça voulait dire grosse vache. Et les Indiens voulaient me pécho. Donc, j'étais pas grosse, quoi. Mais je trouvais ça fou. Je trouvais ça fou qu'une meuf qui avait peut-être 10 kilos de plus, on venait l'insulter. Donc, j'ai baigné, comme vous voyez. Et puis, j'ai aussi baigné. Je peux pas ne pas en parler. J'ai grandi avec des parents qui m'ont fait remarquer que j'étais trop. J'ai grandi avec des parents qui m'ont dit que j'étais belle, mais que c'était dommage que je sois comme ça. Une maman qui a fouillé dans mon sac pour voir si j'avais pas des bonbons, mon père qui pouvait se foutre de ma gueule quand je mangeais quoi que ce soit d'ailleurs, qui me dit non, tu vas pas reprendre ça quand même. Donc voilà, j'ai baigné dans un univers où on venait pointer mon corps. Donc comment voulez-vous que j'aie confiance en moi ? Franchement, comment on peut grandir avec une estime de soi quand on n'arrête pas de vous dire « Hé, toi, c'est pas ouf ce que t'es. Toi, t'es mimi de visage, mais le reste, t'es dégueulasse, mon gars. T'es dégueulasse. » Bah, va te construire une estime de toi, va te construire une confiance quand t'es jeune femme, quoi. Qu'est-ce que c'est dur, putain, qu'est-ce que c'est dur. Et donc, voilà, donc il y a eu ce centre pour maigrir... Où évidemment, j'ai tout repris. Bien sûr que j'ai repris tout ce poids. Ça a mis du temps, mais j'ai repris tout ce poids, comme la majorité. Je crois que c'est 80% de gens qui reprennent un truc comme ça. Surtout quand t'es adolescent, quoi. Et voilà, le collège passe. Je rencontre des garçons avec qui je sors. Et je rentre au collège et... Au lycée, pardon. Et voilà, on continue de me pointer du doigt, On continue de me pointer du doigt, en fait. Enfin, quand il y a des blancs, c'est parce que j'ai réfléchi. Mais quand je rentre au lycée, ça n'a pas duré longtemps, vraiment. J'ai fait seconde deux fois, et puis je suis partie. J'ai beaucoup redoublé, tout c'était pas fait pour moi, le système scolaire. Ouais, voilà, on m'insultait, quoi. On me faisait comprendre. J'avais repris... En fait, je suis remontée à 88 et j'ai stagné à 88 pendant des années. Vraiment très très longtemps, je fais cette école de musique. Et pareil, voilà, on me fait comprendre que je suis plus grosse que mes copines. L'insulte, j'ai un peu moins d'insultes, mais là, les gens veulent me pécho parce que du coup, je rentre dans une... certaines formes de désir parce que je suis une meuf un peu pulpeuse et que c'est la mode des meufs un peu en chair, mais pas trop non plus, faut pas déconner. Donc voilà, et cette école de musique, tout ça, ça continue. Enfin, la vie passe, quoi. Et j'ai une période où en fait... Enfin, c'est pas que j'ai une période, c'est que toute ma life, en fait, jusqu'à maintenant, j'ai fait des putains de régimes et des putains de rééquilibrages alimentaires. J'ai fait des soupes aux choux, je me suis affamée. J'ai eu des coachs qui m'ont demandé de m'affamer, des diététiciens qui m'ont dit de prendre des œufs et du blanc de dinde et de manger que ça. Une maman qui a fait du camp, qui a fait tous ces trucs-là. Donc, j'ai suivi. Donc, j'ai grandi dans une insécurité en termes de nourriture. Il n'y avait rien de sucrerie, il n'y avait pas de sucrerie à la maison, il n'y avait pas de soda, il n'y a jamais eu de bonbons, de Nutella, il n'y avait pas du tout ce genre de choses à la maison, donc j'ai grandi dans de la frustration, et je me souviens même d'ailleurs qu'en primaire, quand mes parents me donnaient un peu d'argent de poche, j'allais à la boulangerie et je demandais 10 francs de bonbons, ou je ne sais plus combien, et je les mangeais un peu en cachette, et donc j'ai eu des genres de TCA, des troubles du comportement alimentaire, dès la primaire en fait, dès la primaire, oh ça m'émeut de me dire que j'ai eu ça dès la primaire, mais... Et puis au collège et au lycée, en fait, enfin en tout cas, voilà, toute la période d'adolescence, j'ai pu plusieurs fois passer devant le Monoprix, Franprix, enfin tous les supermarchés, quoi, en me disant t'y vas pas, comme si j'avais l'ange et le démon, et puis j'allais acheter plein de trucs sucrés et je m'empifferais, quoi, et après j'essayais de vomir, ça marchait pas, et donc je me griffais le visage. Et c'était au collège, ça. C'était au collège, mais en fait, je mangeais en cachette. Je mangeais en cachette, vu qu'on n'arrêtait pas de... Bah, voilà, tout ce que je vous ai raconté, il n'y avait pas de sucrerie. Et puis quand il m'arrivait, par erreur ou par malheur, de manger un truc un peu de trop, bah, on venait me dire « Oh, bah, dis donc, non, quand même !» Donc, voilà, tout ça a créé, évidemment, une insécurité dans mon rapport au corps, une insécurité dans mon rapport à l'alimentation et de l'interdit, mais de la frustration et une maman qui fout dans le sac. Enfin, je me répète, mais ça a créé tellement, tellement de choses en moi, plus les insultes. Et puis après, quand j'ai grandi, que j'ai fait de la musique et tout, j'ai fait du yo-yo toute ma vie. Hein. Je suis descendue à 80. Je suis pas descendue en dessous. Hein. Après le centre pour maigrir, je suis jamais redescendue en dessous de 80. Et 85, 88, 90, à un moment j'ai dépassé les 90, j'ai encore monté au-dessus de 90, mais j'avais jamais dépassé la barre des 100 à cette période-là, et donc je sortais beaucoup, 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 toute ma période ouais, de jeune femme, je dirais, de 20 ans, quoi, de 20, 25 ans, un truc comme ça, de 19 ans à 26 ans, je dirais. Je suis beaucoup sortie, j'ai fait beaucoup la teuf, beaucoup, beaucoup. Et donc, je rencontrais beaucoup de mecs. Et je baisais avec beaucoup de mecs parce que c'était une manière pour moi de me faire valider par l'autre. Vu que, de toute façon, j'avais connu que ça dans ma vie. Donc, involontairement et inconsciemment, en fait, j'allais vers ça. Donc, j'ai été vers des hommes avec qui je couchais, je dirais plutôt, mais je crois que j'en ai déjà parlé aussi. Oui, j'en ai parlé dans un épisode sur la sexualité. D'ailleurs, j'ai parlé de tout ça dans cet épisode sur la sexualité où en fait, c'est pas moi qui couchais avec les mecs, c'est les mecs qui couchaient avec moi, en fait, parce que... Je me donnais à fond dans la sexualité en espérant qu'on tombe amoureux de moi. Non. Évidemment, ça n'arrivait pas. J'ai été longtemps la maîtresse. J'ai été longtemps dans ce truc de désir, de désirer, d'une meuf qu'on désire, mais qui va répondre qu'au cul, en fait. Parce que voilà, je répondais à un certain fantasme des mecs de la meuf un peu pulpeuse, mais pas grosse, mais une meuf qu'on a envie de ken. Donc c'était difficile parce que quand je me détestais pas et quand on venait pas m'insulter, et ben je misais tout sur mon physique et j'essayais de plaire aux hommes et donc de me désirer aussi, enfin de me trouver un peu jolie. Vu qu'on n'arrêtait pas de me dire que j'avais un beau visage, on m'a quand même beaucoup coupé de mon corps, beaucoup. On m'a jamais dit, très rarement, on m'a dit que j'avais un beau corps ou que j'étais belle. On me disait t'as un beau visage. Et voilà, le temps passe et puis je prends un peu de poids petit à petit et enfin pas petit à petit, je continue de prendre du poids et je fais le yo-yo mais genre toute ma vie, vraiment, genre je n'ai jamais eu de poids stable, j'ai jamais eu un vrai poids stable. Alors peut-être que mon poids de corps c'était 88 et je pense que c'est mon poids de corps, je sais pas comment on appelle ça, mais un poids stable quoi. On est d'accord que bon, je fais 1m71 maintenant, mais ça reste presque 20 kilos au-dessus de ma taille, mais en tout cas à ce stade-là, avec le recul, je trouvais que ça m'allait bien, je me sentais pas trop mal, et j'ai longtemps été à ce poids-là, donc peut-être que c'était mon poids de corps. Bref, le temps passe, je rencontre des mecs, je continue de prendre du poids, je fais des photos, je fais plein de photos, je deviens mannequin grande taille, parce que j'essaye de me dire, bah vas-y, essaye de faire quelque chose de ton physique, vu qu'on me dit que t'as un beau visage, bah peut-être, et que t'es un peu grosse, mais pas trop. Je faisais un 42, 44, quoi, et donc j'étais un peu, mais pas trop. Puis voilà, je deviens mannequin, chanteuse, machin, là, je retrace un peu ma life en même temps. Ouais, les kilos ne cessent de s'accroître, de s'accumuler. Et puis je rencontre mon mec, il y a 8 ans, presque 8 ans maintenant. Et à ce moment-là, je me souviens très bien. J'étais à 98, un truc comme ça, à peu près, 97, un truc. J'avais jamais été aussi grosse de ma vie, il y a presque 8 ans. Et en 8 ans, presque 8 ans, lui comme moi, on a pris 20 kilos ensemble. Donc, je suis même plus d'ailleurs, je suis montée à... Parce que vous, on parle de ça, donc parlons de chiffres. Hein. Je crois que je suis montée à 126, un truc comme ça. En tout cas, quand j'ai dépassé la barre des 100, ça a été infernal pour moi. Ça a été très, très dur. Mais je n'arrivais pas, en fait. C'était trop difficile. J'arrivais pas, en fait, à perdre. Enfin, en tout cas, je perdais. Parce que c'est ça le problème de ma life, comme j'imagine ça va beaucoup vous parler, je perdais. J'ai toujours vachement bien perdu de poids, mais j'ai toujours vachement bien repris de poids. et toujours le double. Donc c'est pour ça que je dis, ça fait 35 ans que je ne fais que prendre du poids avec les années. Parce que j'en perds, mais j'en reprends. Je vais perdre 5 kilos, mais je m'en reprends 7 en un an. Donc y a toujours des kilos qui s'accumulent. Et donc je suis montée, voilà, quand j'ai dépassé la barre des 100, il y a eu quelque chose en moi où je me suis dit, ça y est, c'est foutu. C'est fini pour moi, genre, je vais me détester. Ça y est, je suis obèse. C'est terminé pour moi. Enfin, c'est terminé pour moi d'être mince, quoi. Et en même temps, je faisais en sorte de perdre du poids. Mais voilà, j'étais pas dans un truc où je m'empiffrais, mais j'avais en effet un rapport où je venais me cajoler dans la nourriture, puisqu'on m'a tellement dit, que c'était que j'étais pas bien, que en fait, bah, je me suis réfugiée là. J'aurais pu me réfugier ailleurs, bah, ça s'est fait dans la bouffe. Et il y avait comme une forme de doudou au niveau de la nourriture. Et voilà, j'ai pris du poids, et puis quand je suis montée à 126, ça a été 126, 128, je me souviens plus exactement. J'ai failli me faire opérer parce que c'était arrivé pour moi à un stade où je me suis dit mais je peux pas en fait, là, ça va être quoi la prochaine étape en fait. Et j'avais fait, comme je vous ai dit, énormément de rééquilibrage, énormément de régime dans ma vie, énormément de sport au final. J'ai fait beaucoup de danse, beaucoup de salle en sport, j'ai fait de la piscine, pour tous les crossfit, enfin tous les zumba, les machins, j'ai fait tous ces trucs-là. Et en fait, ça fonctionnait pas sur la durée. Et j'ai passé 8 mois à faire tout ce parcours bariatrique, quoi, parce qu'il était question de me faire une sleeve ou un bypass. Je me souviens plus maintenant, parce que ça remonte quand même à il y a quelques années. Je crois que c'était un bypass. Ouais. Et j'ai passé 6-8 mois à faire tout le parcours. Et je me souviens que la chirurgienne m'avait dit bon, bah, vous êtes un peu grande, donc je vais vous rapetisser sur la feuille. Puis je vais vous mettre quelques kilos en plus sur la feuille. Comme ça, vous pouvez vous faire rembourser, machin. Et parallèlement à ça, moi, je suis en train de tourner dans un téléfilm qui traite de ça en plus. C'est un rôle principal. Première fois que j'ai un rôle principal qui parle de grossophobie. Donc, une période un peu étrange pour moi. Et donc, voilà, je fais tout ce parcours-là où je vois 3 fois une psy. Où je vois principalement des meufs dans les salles d'attente. Sans vous mentir, je pense qu'il y avait 98% de meufs. Et de meufs jeunes, très jeunes, parfois mineures, enfin mineures, j'en sais rien, mais accompagnées de leurs parents qui étaient grosses, mais qui n'étaient pas non plus obèses, quoi. Et en fait, voilà, j'ai ma date. C'est en mars. Je me souviens que je rentre... tiens, c'est marrant. Je repense à ça alors que j'avais zappé. Je suis rentrée, comme mon mec m'a dit, dans un tunnel de bouffe. Parce que je savais que je pourrais plus manger comme ça après. Donc j'ai mangé de la merde. Mais genre, je me suis empiffrée, quoi. Il y avait un truc de venir s'empiffrer, de manger que de la merde et de manger beaucoup trop. Des domacs, mais beaucoup, quoi. Et 2 semaines avant. Et le jour où je vais me faire opérer, je vous raconte ça parce que c'est un moment marquant pour moi. Je suis dans la chambre et mon mec est là et je m'endors sur le lit alors que moi je m'endors pas n'importe où, genre vraiment pas du tout. Faut que je sois dans mon lit avec mes oreillers. Enfin vraiment j'ai un peu une petite routine quoi. Et là je m'endors et je fais une sieste. Je fais un rêve. Où vous souvenez des anciens iPhones là avec le bouton en bas. En fait je rêve que j'ai un iPhone et que le bouton du bas là il est pété, il a sauté. Et donc je dis à mon mec, je fais oh, fais chier, le téléphone il marche plus. Il me dit si mais on peut le réparer, on va pouvoir remettre un autre bouton. Je dis non mais il a plus de valeur le téléphone comme ça, ça sert à rien que je le garde alors qu'il y a plus ce bouton là. Et lui, mon mec, il comprend pas. Il dit, si, on va pouvoir le réparer. Je fais, non, ça, c'est plus le même. Il a plus la même valeur. Et je me suis réveillée. Le brancardier était là et tout. Et j'ai compris après, en fait, que c'était cette histoire de corps et de, qu'on allait me couper l'estomac. Ouais, je crois que c'était la sleeve. Bon, je me souviens plus. Et que je me disais, en fait, que c'était un parallèle, en fait, une genre de métaphore en me coupant ce bout, j'aurais plus la même valeur, je serais plus pareil. Bah, c'est vrai, je serais plus la même. Et le brancardier arrive, et donc je monte dans l'ascenseur, et on ferme les portes, enfin, l'ascenseur ferme, et on se dit au revoir avec mon mec, et je suis en larmes. Je suis vraiment en larmes, quoi, je suis pas bien. Et on monte, et je suis censée aller tout au bout, tout au fond du couloir, dans la salle d'opération, et j'ai ma Charlotte, le truc bleu sur moi, là, le cul à l'air, et je suis en larmes. Je suis en larmes, j'ai l'impression, excusez l'expression, mais je suis dans le couloir de la mort, en fait. Le brancard, il trébuche sur un truc, donc mon lit, il se secoue, et je vois 4 blocs sur la droite, et j'ai l'impression d'être du bétail, en fait. Vraiment, j'ai l'impression d'être un animal qu'on va dépecer. Je suis désolée pour cette image-là, mais j'ai eu cette sensation-là et donc j'ai peur en fait. J'ai peur et je me souviens que quand j'arrive, il y a tous les anesthésistes, tout ça qui sont au bout et la chirurgienne qui arrive et en fait je me suis pas fait opérer. J'ai dit non devant le bloc parce qu'en fait, je crois qu'il y avait une forme de peur. Évidemment, j'avais très peur de mourir, j'avais peur de souffrir. Moi, les anesthésies générales, c'est une vraie phobie chez moi. Il y a des gens qui kiffent, mais moi, voilà, c'est pas quelque chose qui me fait kiffer. Et puis en fait, je sais pas, je me suis vue sur cette table. Je me suis dit, on va enlever un bout de mon estomac, on va le jeter dans la poubelle. Putain, mais c'est quoi? Et donc, j'ai commencé à me vénère. J'ai dit, je ferai pas cette opération. Mais qu'est-ce que c'est? Mais n'importe quoi! Mais n'importe quoi, je me ferai pas opérer. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe dans la tête. Et qu'est-ce que je dis? Je dis, c'est pas parce qu'on va me retirer un bout de mon estomac que je vais être plus heureuse. Et donc, évidemment, les pauvres, ils se disaient, mais complètement folle. Et donc, la meuf me dit, bah, retournez dans votre chambre et puis on voit ce qu'on peut faire. Et je suis retournée dans ma chambre. Mon mec est venu me chercher et j'ai pleuré 5 heures non-stop. Je suis allée à la mosquée de Paris, c'était juste à côté, et j'ai bu un thé à la menthe et des loukoums à la rose. Je me souviens très bien, et parce que j'avais besoin de un peu une nourriture confortable, quoi. Comme on dit, comfort food. Et voilà, donc en fait, je regrette pas du tout, mais je vous parle de ça parce que j'étais convaincue en fait que j'allais me faire opérer et que c'était la meilleure chose à faire pour moi. Et en fait, je l'ai pas fait parce que voilà, comme je vous ai dit, j'avais peur de souffrir, j'avais peur. De mourir, j'avais peur. Et je pense qu'il faut beaucoup de courage pour faire ces opérations. Et en fait, je me sentais pas assez courageuse. Et aussi, parce que je me suis dit, mais c'est pas comme ça que les choses vont se régler. C'est pas parce qu'on m'enlève un bout d'estomac et que je vais perdre du poids que je vais être plus heureuse. Et surtout que je connais beaucoup de gens autour de moi. Évidemment, ce que je vais dire là n'est pas... Enfin, je vais faire une généralité parce qu'il y a toujours des gens qui ne ressentent pas ça comme ça. Mais pour ma part, j'ai quand même rencontré beaucoup de gens qui ont repris beaucoup de poids. Alors, on perd avec ces opérations, on perd beaucoup. On perd 50, 60, 40 kilos en peu de temps, en un an. Et donc, les gens ne se rendent pas compte. Ils réalisent pas, en fait, qu'ils ont perdu du poids. Ils se voient souvent, toujours gros. La relation à la nourriture, elle est compliquée. Il n'y a pas d'accompagnement psy vraiment véritable dans toutes ces démarches-là. Et il y en a pour qui ça fonctionne, et c'est trop bien. Mais voilà, je sentais que c'était pas du tout la bonne chose à faire pour moi et je suis toujours en lien avec ça. Bref, la parenthèse était très très longue. Enfin, c'était pas une parenthèse, mais ce détail était assez long, mais ça a été une période importante dans ma vie. Et donc ça, je dirais que c'était il y a 5-6 ans. Et en fait, j'ai continué à prendre... Non, j'ai plus pris de poids. J'ai pas pris plus que 126 kilos, ce qui était déjà pas mal. Je me trouvais plus du tout... En fait, je me suis pas vue grossir. En même temps, je me suis vue grossir. Enfin, c'était très bizarre. Mais en tout cas, quand je voyais des vidéos, des photos de moi, je disais, waouh, putain, ouais. OK, on n'est pas sur la même personne qu'il y a quelques mois ou quelques années. Et donc, j'ai perdu. J'ai reperdu ces 26 kilos, au final. J'ai perdu... quand j'ai accouché, pour vous donner un exemple, donc je suis montée à 126 et le lendemain de mon accouchement, je suis à 99. Donc, alors j'ai pas perdu 26 kilos pendant mon accouchement, attention, hein, mais j'ai reperdu, je suis redescendue à 110, à 105, je suis remontée, voilà. Et pendant ma grossesse, en fait, bah j'ai perdu 13 kilos, donc je suis descendue à 89, 99 kilos. J'avais pas fait ce poids-là depuis au moins 5-6 ans. 5 ans, très bizarre de me voir comme ça, de sentir mon corps, je touchais beaucoup mon corps et tout, et en même temps j'aimais bien, parce que je me suis dit, putain, j'ai perdu 13 kilos sans rien demander, bon, ok, je faisais du diabète gestationnel, mais d'ailleurs ma grossesse ça a été un truc, parce que vu que je faisais du diabète gestationnel, il fallait que je me fasse des piqûres d'insuline, et je vais faire un peu gaffe à la bouffe, mais je faisais pas énormément gaffe, mais ça m'a vraiment fait chier. Parce que déjà, la clope, c'est très compliqué pendant la grossesse, plus on doit faire gaffe aux fruits de mer, aux saucissons, aux machins. En fait, je me sentais enfermée, et j'avais besoin, en fait, de me faire plaisir dans la nourriture, mais c'était très compliqué. Et puis, au final, voilà, j'accouche, et j'ai repris 10 kilos en un mois. Trois mois après mon accouchement, j'ai repris 10 kilos en un mois. Je sais pas pourquoi, je sais toujours pas pourquoi. Donc j'ai repris, je suis remontée à 110, puis je suis remontée encore, et j'ai redescendu. Et voilà, et en fait, jusqu'à maintenant, c'est pour ça que je vous dis que c'est le poids de ma vie, hein, vraiment. Peut-être qu'on peut appeler d'ailleurs cet épisode comme ça, le poids de ma vie, parce que j'ai jamais été en paix. Voilà, j'ai jamais été tranquille longtemps, en fait, avec mon corps, parce que il y a un moment de rechute, en fait. Il y a un moment où je me frustre, en fait, dans la nourriture. Beaucoup, 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 beaucoup. Je perds du poids. Puis, par moment, j'en peux plus et donc, je recraque. Et là, je suis à une période de ma vie où, c'est compliqué pour moi. Pour des nouvelles choses. Vraiment, c'est des nouvelles choses. Il y a encore un an, je faisais les trucs de vinaigre de cidre, de manger les aliments dans le bon ordre, je sais pas quoi, mon cul. Et j'arrivais à perdre, je sais pas, 6-10 kilos en deux mois. Donc, je vous laisse imaginer l'état de mon corps. Alors, ça va être pas catastrophique, mais j'ai des vergetures, quoi. Mon corps a fait du yo-yo. Enfin, on est passé de 88 à 100, presque 130, donc c'est quand même pas mal. Mais ça va, j'ai pas de peau qui pend, j'ai pas ça. Tant mieux, parce que je pense que ça aurait été encore plus difficile pour moi à m'accepter. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je dis souvent que je m'accepte, mais que je ne m'aime pas. Et souvent, les journalistes, ils comprennent pas. Mais en fait, j'accepte que je suis comme ça. J'accepte qu'il y a un mur blanc, tu vois. C'est pas pour autant que je vais aimer le mur qui est blanc, mais je l'accepte. Et là, c'est pareil, en fait. J'accepte ce que je suis, parce que c'est ce que je suis pour l'instant. C'est comme ça, mais c'est pas pour autant que je m'aime. Parenthèse fermée. Donc là, j'enregistre cet épisode, nous sommes mi-mars. Donc je sais pas quand est-ce que ça sortira. Mais au mois de novembre... Enfin, bah non, j'ai arrêté la cigarette. Donc à ce stade-là, là, j'ai arrêté la clope il y a 5 mois. Et donc j'ai pris un petit peu de poids. Je suis passée de 110 à 116. C'est pas facile pour moi de parler de mon poids. Hein. C'est vraiment, genre, j'ai un peu honte. Mais life, j'ai décidé d'être vulnérable et de qu'il n'y ait pas de tabou sur ce podcast, donc allons-y. Donc ouais, j'ai pris 6 kilos avec l'arrêt de la cigarette, ce qui n'est pas si pire, mais c'est déjà pas mal. Mais bon, je préfère ça que continuer de fumer. Et bien que j'ai très envie de fumer tout le temps, mais là n'est pas du tout le sujet. Et donc je pars en vacances, tout ça, et en rentrant des vacances, je rencontre un mec que je découvre sur internet qui s'appelle Hicham, que j'ai invité dans le podcast. Je sais pas s'il est déjà sorti cet épisode ou qu'il va bientôt sortir, mais un mec qui m'a ouvert les yeux sur plein de trucs, un mec qui a perdu plus de 100 kilos en 5 ans, enfin, sans opération, bref, un truc très intéressant. Et donc on commence à échanger, et il raconte qu'il a beaucoup marché, que ça a été ça, un peu le déclic, pas le déclic, mais qu'il a mis, ça lui a mis le pied à l'étrier, on va dire, et donc je me dis, ouais, mais en fait, c'est ça, faut que je marche, faut que je fasse un truc qui me semble facile, enfin, que je peux faire toute ma vie, quoi. Et moi, qui suis très sédentaire, qui bosse à la maison, bah, peut-être que c'est le bon truc pour moi. Et donc, je commence d'abord à marcher, mais genre, je marche 10 minutes par jour, puis 15, puis 20, et je suis arrivée maintenant à marcher à peu près une heure. Alors là, en ce moment, je marche plus trop. Je vais vous expliquer pourquoi après, mais voilà, je marche. Dès que j'ai des coups de fil, en fait, je vais dehors, donc tous les jours, tous les deux jours. Et puis, je rencontre un diététicien qui me présente. Parallèlement à ça, moi, j'ai des problèmes de thyroïde depuis des années, donc je fais des check-ups tous les 6 mois. Et suite à une prise de sang, on voit que ma glycémie à jeun et mon insuline à jeun est un peu trop haute. Donc, mon endocrinologue, j'ai presque un prédiabète, ou un diabète naissant, mais genre tout petit. Et elle me dit, bon, là, il faut vraiment perdre du poids. Il faut que d'ici 4-5 mois, vous ayez perdu 10 kilos. Sinon, bah, on commence les médicaments. Je me dis, ah, quoi? Non, moi, je veux pas. Je suis un peu anti-médoc et tout. Et donc, je rencontre ce diététicien. Bonjour, je voudrais perdre 10 kilos en 4 mois. Il m'a dit, OK, alors c'est 100 mois, meuf. Il m'a dit, je peux t'aider à perdre 10-15% de ton poids. Donc, 10-15 kilos de ton poids. 10-15 kilos, pardon. Mais en un an, je fais, quoi? Bah, pourquoi? Il me dit, bah, parce que, en fait, l'idée, c'est que tu les reprennes pas. Derrière. Ah bah oui, mais sauf que moi j'avais pas imaginé ça. Et il me dit, ah bah oui, mais tu as été accompagné que par des gens qui t'ont fait qui t'ont fait perdre du poids rapidement et qui t'ont frustré dans la nourriture et tu as repris tous ces kilos, non ? Oui, c'est ça. Ok, bon, bah, on va essayer de faire autrement. Et donc, ça fait plus de 2 mois là que j'ai ce nutritionniste où on parle très peu de nourriture, au final. On parle beaucoup plus de la relation à la bouffe, des TCA, de qu'est-ce que c'est l'obésité, que l'obésité est une maladie, que c'est pas une histoire de volonté, que ça n'a rien à voir avec la volonté. Et je croyais que ça avait un lien avec ça, en me disant « Ah, bah voilà, c'est bon, on arrête de manger de la merde, on perd du poids, et puis basta. » J'ai longtemps cru ça toute ma vie, en fait. J'ai vraiment longtemps cru ça, et où je me cachais derrière ça aussi beaucoup. Mais voilà, en fait, je découvre que c'est pas ça. Et au final, voilà, je comprends, en fait, qu'il n'y a pas vraiment d'efforts à faire, dans le sens où il faut que je... Enfin, les efforts, ils sont d'ordre émotionnel, parce que moi, je suis aussi en analyse, donc quelque part, je travaille tout ça avec mon analyste aussi, mais de manière différente, quoi. Bah, je réalise que je grignote tout le temps. Tout le temps, bah, parce que j'ai grandi dans ça, dans du grignotage. Il y avait peu de moments à table à la famille. Dans ma famille, c'est pas un reproche, mais c'est une réalité. On mangeait devant la télé, j'aimais trop ça. Hein. Mais voilà, il n'y avait pas de cadre alimentaire vraiment. Donc, bah, j'ai très difficile. Et puis, mes parents sont des gens qui grignotent. Ils sont pas gros, mes parents, hein, mais c'est des gens qui grignotent. Donc, bah, j'ai suivi ce truc-là. Et le grignotage, et puis l'insécurité dans la nourriture, hein, comme ce que je vous ai dit depuis le début. Donc, bah, ce qui fait que c'est complètement anarchique, quoi. C'est complètement anarchique. Donc, on essaye de remettre un peu d'ordre là-dedans où en fait, il me dit juste, sois regardante sur comment tu manges. Sans changer tes habitudes alimentaires, mais juste regarde, mets un peu plus d'attention. Vois comment tu dors, si le caca, c'est un peu mieux, si tu te sens plus fatiguée, plus ballonnée. Et donc, j'observe un peu tout ça. Je prends des notes, je prends mes plans en photo, tout ça et tout. Et petit à petit, en fait, naturellement, sans forcément que lui me dise, mange plus de légumes et tout machin, je réalise qu'avec mon mec, on peut manger des repas sans légumes pendant des jours et des jours. Et je me dis, ah, c'est pas fifou ça, mais pas pour une histoire de poids, mais juste pour une histoire de santé. Je me dis, bah écoute, en fait, viens, essaye de manger des légumes à chaque repas. Et donc, bah voilà, je commence à manger des légumes à chaque repas, et puis au final, je me fais des bonnes assiettes de féculents, de légumes, de protéines, et bah, du coup, j'ai pas faim entre les repas, mais vu que j'ai occupé ma bouche pendant des années, titre, et bah naturellement j'ai cette envie de grignoter, d'occuper ma bouche, quoi, parce que voilà, ma bouche s'ennuie quelque part. Et donc voilà, je grignote un peu et puis je m'arrête. Et je grignote peu, en fait. Je grignote peu. J'ai plutôt me faire des cafés latte, un petit jus d'orange, mais je vais plus trop manger. Voilà, je me fais vraiment des vrais petits déjeuners. Et pareil, le petit déjeuner, pour moi, c'est un non-sujet. Parce que moi, toute ma life, c'était café latte et 6-7 clopes le matin. Ouais, je sais, un peu hardcore. Et c'est tout. C'était mon petit-déj, tu vois. C'est quoi, café, caca, clope? Non, c'est café, clope, caca. Bon, je sais plus exactement. Je me mets à manger le matin et à aimer ça. Et en fait, naturellement, bah, j'ai pas envie de manger. J'ai pas envie de manger entre les repas. Et puis voilà, en travaillant avec lui, ce que c'est l'hyperphagie, ce que c'est le surmanger, ce que c'est l'externalité, les TCA, enfin plein de choses, en fait, c'est passionnant. En parlant avec mon pote Hicham, la marche, tout ça, en fait, il y a un truc où ça me fait du bien. Sauf que, ça fait donc 2 mois et demi que j'ai mis tout ça en place, et que la nouveauté aussi, c'est que vu que je fais de la glycémie, enfin ma glycémie et mon insuline à jeun est trop haut. Je suis allée faire un test il y a 3 semaines, un mois, ouais, pour checker un peu la résistance à l'insuline, parce que mon pote Hicham me dit va checker, on sait jamais. Et je vais checker et en fait on voit que je fais de la résistance à l'insuline. Et donc j'appelle mon médecin, je lui en parle, elle me dit ok, je vais vous mettre sous traitement pendant 6 mois pour un peu faire en sorte que la glycémie et l'insuline se restabilisent et tout. Et donc, ça fait 2 mois que la marche fait partie de ma vie, que je mange, je dirais, normalement. J'ai même pas envie de dire que je fais un rééquilibrage alimentaire, parce que c'est pas le cas. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure avec mon mec, mais les rééquilibrages alimentaires, pour moi, c'est une jolie manière de dire qu'on est au régime. Voilà, pour moins culpabiliser, mais en fait, pour moi, c'est exactement la même chose. Et là, en fait, je suis pas en rééquilibrage alimentaire, je mange juste normalement. Je mange de tout. Je mange des légumes. Là, juste avant de prendre le micro, j'ai fait des légumes rôtis parce que j'avais trop envie de faire ça. Je vais me manger des bonnes pâtes à côté. Enfin, voilà, mais je mange de tout. Et voilà, sauf que c'est la première fois de ma vie que je ne perds pas de poids. C'est-à-dire que depuis le mois de janvier, j'ai pris 2 kilos. Alors, on me dit, oui, mais c'est peut-être parce que c'est du muscle. Et tu sais, le muscle, il passe plus lourd que le gras. Je fais, oui, oui. Non, mais peut-être, d'accord, parce que j'ai repris un peu une activité. Je marche, hein. Et puis tranquille, tu vois, je marche une heure, ok, mais c'est pas de la marche rapide, hein. Mais en effet, je suis quelqu'un de très sédentaire, donc c'est déjà un gap important. Mais tous les jours, je me suis pesée, là, pendant un moment, je me pesais tous les jours et je voyais que je ne perdais pas un gramme. Et c'est très frustrant. Surtout qu'en plus, j'ai ce médicament, là, depuis 2-3 semaines. Et ça ne fait pas effet parce qu'apparemment, ça t'aide à perdre du poids. Apparemment. Donc peut-être, là, dernièrement, je me suis dit, mais attends, peut-être qu'il faut que je me fasse un régime, en fait. Peut-être qu'il faut que je fasse un énième régime. Et en fait, il y a 2-3 jours, je parle avec ma mère et puis je fonds en larmes parce que c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Que là, je comprends enfin ce truc de tous ces gens gros qui disent « j'essaye de perdre du poids, je n'y arrive pas ». Parce qu'en fait, je suis là-dedans. Je mange normalement. Et quand je vous dis normalement, c'est vraiment, tu vois une assiette bien équilibrée, et je mange ça. On mange vraiment normalement, il n'y a pas d'excès, et une fois par semaine, on se fait un truc un peu plus gras, quoi. Et je ne perds pas. Donc c'est extrêmement frustrant, mais vraiment, genre, extrêmement frustrant. Et là, tout à l'heure, j'étais avec mon diététicien, et il m'a dit, en fait, j'ai pas du tout envie de te mettre au régime, parce que si on fait un déficit calorique, donc te mettre au régime, rééquilibrage alimentaire, vous l'appelez comme vous voulez, eh bien, en fait, tu vas perdre du poids. Mais en fait, t'auras repris le double à la fin de l'année. Et je veux pas. Et je dis, bah ouais, moi je suis d'accord, hein, j'ai pas du tout envie non plus de reprendre du poids. Et surtout que la nouveauté, c'est que je suis en train de réaliser, et ça c'est très très récent, je pense que ça date d'il y a vraiment quelques jours, donc c'est peut-être trop tôt pour vous en parler, mais je vais quand même le faire. J'ai la sensation que je suis en train de me séparer de ma relation à la nourriture. Et si vous avez compris, là, tout ce que je vous raconte, je me suis réfugiée, en fait, toute ma life dans la nourriture. Je me suis protégée avec, je me suis créée une forme de barricade de bouffe, quoi, de protection, un bouclier, une forme de bouclier d'alimentaire. Et c'était devenu, comme je vous dis, de la comfort food, de manger uniquement ce qui me donne envie. Et basta. Et en fait, j'ai la sensation depuis quelques jours que je suis en train de quitter ça, que ma relation à la nourriture, elle est en train de devenir, je dirais, normale. Alors, évidemment, j'ai toujours des restes de... Bon, vraiment, on parle de plus de quelques jours, mais j'ai des moments où je compulse encore un petit peu. C'est assez rare, je dois avouer. Mais au lieu de manger un gâteau, genre, je sais pas, un petit gâteau pour de mon fils, bah, j'en mangeais 3-4, quoi. Ou de manger le paquet entier. Non, je vais plus manger le paquet entier. Mais j'ai l'impression que je suis en train de soigner mes TCA, en fait. De soigner mon hyperphagie. Et au final, je suis très heureuse de ça. Mais paradoxalement à ça, je me sens vraiment mal parce que... Mais là, c'est un ensemble, ça va même... Au-delà du poids, enfin le poids fait partie du problème, mais disons que c'est presque secondaire. En fait, je sors un peu, ouais, voilà, du poids, mais j'ai 35 ans et je me trouve de moins en moins belle parce que c'est le temps qui passe, franchement. Alors vous allez me dire, ouais, mais t'as 35 ans, Juju, franchement, ça va, attends quand t'auras 50 ans. Ouais, ouais. Mais je le vois déjà sur les photos, je vois déjà la qualité de ma peau, mon visage qui se marque. Et puis je dois avouer que je m'aime pas grosse, quoi. Il y a des gens qui s'aiment gros et franchement tant mieux pour eux. Moi j'y arrive pas. Je n'arrive pas à m'aimer comme ça. J'ai très peu d'estime de moi quand je suis grosse. Et comme je vous dis, je fais attention à ce que je mange. Enfin je veux plus penser comme ça. Non, je mange normalement là et je ne perds pas de poids. Donc là je pense que ça se joue ailleurs. Mais mon poids devient, c'est même pas devient, c'est qu'il est handicapant. Mon poids est très handicapant dans l'estime que je me porte. J'arrive à monter un escalier, mais en vrai, je suis essoufflée, on va pas se mytho. Quand je marche un peu une petite côte, je suis essoufflée. Quand je porte mon fils, je suis essoufflée. Parce que je suis grosse, en fait. Enfin, faut arrêter de croire que c'est une insulte ou machin, en fait, c'est une réalité, quoi. Et le problème, c'est que vu que j'ai peu d'estime, que je me sens engoncée, pas mon diète, il croyait que je disais engrossé. Non, engoncé. Dans mon corps, je me sens pas bien, mon ventre, il prend de la place et tout. Bah, j'ai plus de libido, là, je n'ai pas envie de faire l'amour. Je me livre un peu, parce qu'en fait, c'est juste que ça vient créer un désamour énorme. Je suis vraiment dans cette phase où j'arrive un peu genre, oh, tu sais, je suis un peu fatiguée de me dire, putain, première fois de ma vie, que ça y est, je me débarrasse d'une relation à la nourriture qui est pas bonne. Je commence à manger normalement et je me rends compte que j'ai plus besoin de me réfugier dans la nourriture. Et pourtant, je perds pas de poids, quoi. Donc, c'est très déstabilisant. En vrai, ça me rend malheureuse. Là, je vais à Paris là, dans quelques jours et j'avais un shooting lingerie nue et tout. Et je lui ai dit, franchement, je peux pas, je me sens pas bien. Alors que vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, que poser en lingerie, poser nue et tout, c'est pas la routine, on va pas abuser, mais c'est quelque chose que je sais faire et que j'aime faire parce que ça me challenge. Mais là, j'arrive pas, je peux pas. C'est trop difficile pour moi. Et en vrai, voilà, je me sens pas bien. Donc, c'est pas pour autant que je vais reprendre la malbouffe parce que j'ai plus besoin de me punir, en fait. Je ressens plus ce besoin-là. Franchement, c'est ça de gagner, hein. On va pas se mentir. Je me demande très sincèrement quand est-ce que je serai enfin en paix avec mon corps. Quand est-ce que j'aurai plus aucun problème avec la nourriture, que j'aurai une relation saine. Même si je reste à ce poids, être en paix, être tranquille, ne plus venir être malheureuse, quoi. Franchement, je me souhaite vraiment de quitter cette barricade, quitter de me séparer de ce bouclier, quoi. Je ne rêve que de ça depuis des années. C'est pour ça quand les gens nous disent t'es grosse, vas-y, perds du poids. Je vous assure. Hein. Je vous assure que les gens gros, ils font que ça, quoi. Pas tous, hein, mais la majorité des gens. Putain, mais les gens gros, ils s'alimentent en général parfois beaucoup mieux que les gens qui ne le sont pas. Ils connaissent extrêmement bien la nourriture, les besoins nutritionnels. On est méga calés. On est vraiment hyper calés. Je crois que c'est mon vœu le plus cher, hein, c'est d'être en paix, quoi. D'être en paix, que ce soit plus un sujet, que juste mon corps soit un moyen de transport. Voilà, j'ai l'impression que je suis en train d'aller vers ça en ce moment, vu que je me découvre une relation saine à la nourriture, que voilà, c'est vraiment un truc nouveau. Voilà, écoutez, je sais pas comment je peux terminer cet épisode. On va terminer comme ça parce qu'il y a pas vraiment de fin. Je pense qu'il y aura une fin quand je serai morte. Oh waouh. Mais en vrai, c'est vrai. En vrai, c'est ça, hein. Je crois que la fin sera... Oh, peut-être qu'il y aura une fin quand je serai en paix. Pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, en tout cas vous aura parlé. N'hésitez pas à m'envoyer des DM, des mails. Si je réponds pas, sachez que je vous lis quand même. Hein. En vrai, je vous réponds très très peu, mais je vous lis. Je peux pas répondre à tout le monde. Putain, cette phrase, elle est insupportable, mais elle est si vraie. Je peux pas répondre à tout le monde, sinon en fait, ça prendrait mes journées entières. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode. Et puis, d'ici là, prenez soin de vous, c'est important. Et essayez de prendre soin de vous, parce que personne ne le fera à votre place. Oh, waouh, cette phrase est aussi très cliché, mais c'est pas grave. On va se quitter comme ça, ouais. Bisous.